Il y a deux semaines, on apprenait tout juste avant les 50 ans du métro qu'un investissement de 213 millions se concrétisait, portant ici à 31 le nombre de stations universellement accessibles d'ici 2022. Donc, pour nous permettre de mieux voir les souterrains de cette très belle nouvelle, avec nous le président du conseil d'administration de la STM, Philippe Schnob. Bonjour, Monsieur Schnob.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Un plaisir.
Donc, vous avez fait cette annonce majeure il y a peu de temps. À partir de quand l'accessibilité universelle est devenue un enjeu stratégique à la STM?
Bien, je vous dirais que ça l'est depuis qu'on a commencé à installer des ascenseurs. Ça a été... plusieurs années, et que à mon arrivée, j'ai souvent posé la question à savoir, comment on peut accélérer ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer ça? J'ai toujours été très sensibilisé à la réalité des gens qui se déplacent et qui sont à mobilité réduite, et aussi au vieillissement de la population, pour qui ça peut poser parfois des problèmes, les escaliers, ou aux jeunes familles. J'ai encore aidé une dame avant-hier à monter avec la poussette parce qu'il y avait plusieurs marches à la station.
Elle avait ça a été pratique, un ascenseur.
Elle avait même deux enfants dans sa poussette, elle avait besoin d'un petit coup de main. Mais tout ça fait en sorte que quand on a su que le gouvernement fédéral voulait créer un programme d'investissement en transport collectif, rapidement, j'ai posé la question à l'équipe. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire des ascenseurs avec ça? Parce que vous savez que ces sommes-là sont disponibles selon un certain échéancier. Il faut faire vite. Et des projets qu'on peut faire vite en transport collectif, construire des installations majeures, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Oui. Mais il me semble que les ascenseurs, c'est quelque chose qu'on peut faire assez rapidement. Puis là, l'équipe est allée faire ses devoirs. Puis ils ont dit, on pourrait en faire un certain nombre. Puis j'ai dit, c'est une bonne idée. Ensuite, je suis allé voir le maire. Puis je lui ai dit, dites-moi. J'ai dit, c'est un projet qui vous intéresse, on pourrait faire ça. Puis le maire a dit, oui, c'est une super bonne idée. Alors là, on a dit, on va mettre les équipes, on va leur demander d'être encore plus précis dans leurs études et parallèlement, il fallait s'assurer que les critères du programme fédéral permettaient de faire de l'accessibilité universelle parce qu'à la base, l'intention, c'était de faire de la rénovation. Mm-hmm. Installer un ascenseur, c'est pas de la rénovation, c'est de l'ajout. On peut, si on étire un petit peu la définition, on peut se dire, comme ça n'avait pas été fait à l'origine, on rénove, on le rajoute, mais alors là,
Monsieur le maire... c'est logique avec l'idée qui veut qu'on rende accessible des rénovations majeures.
Et le maire s'est assuré que ça faisait partie des critères, donc on allait pouvoir faire des projets d'accessibilité universelle avec le programme fédéral. Ensuite, on est allé plus dans les détails de notre côté, puis on était donc en mesure, avec des discussions avec le gouvernement du Québec également, de pouvoir faire un minimum de 14 stations d'ici les 5 prochaines années.
Et donc, est-ce que... C'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que le ministère des Transports du Québec a aussi mis la main dans sa poche pour financer cette mise en
accessibilité? Oui, tout à fait. Le fédéral en paie 50 %, ça c'est connu. Et je n'ai pas la répartition exacte de l'autre 50 %, mais le gouvernement du Québec paie la très grande majorité de l'autre 50. Là. Est-ce que c'est 40 %? Est-ce que c'est 41, 42, 43, 39? Je pense pas qu'on soit rendu là dans les discussions avec le gouvernement, mais c'est la très grande partie du montant résiduel qui sera payé par le gouvernement. Et là, donc, la Ville de Montréal, la STM, va payer le pourcentage... la troisième partie là, du financement.
Oui, c'est ça. Avec un budget d'1 milliard, c'est sûr qu'on ne peut pas allonger tant
que
ça.
C'est des budgets d'investissement, donc c'est... Ouais. Mais tout à fait... Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là. Le fédéral en paie une grande partie, le gouvernement du Québec aussi, et la STM et la Ville également.
OK. Donc, toute proportion gardée, tout le monde fait sa part.
Bon. Mais c'est quand même Québec et Ottawa qui font la plus grande part.
Parfait. Les 14 stations supplémentaires à ce qui était déjà annoncé, il faut le préciser.
Ouais, ouais.
Dans ce nombre, il y a ces 213 millions qui se transforment en 14 stations.
Il y a d'autres stations qu'on avait déjà annoncées. Là, je pense à Mont-Royal, Vendôme, du Collège, etc. Là, Viau qui se fait bientôt, Honoré-Beaugrand, Place d'Armes. Il m'en manque peut-être une ou deux, mais celles-là sont déjà annoncées. Certaines sont presque terminées, dans le cas de Rosemont, par exemple. Et les autres sont financées avec d'autres programmes qu'on a. L'autre, ça se rajoute. C'est pas c'est de l'argent qui va aller exclusivement à ça.
OK. Ces 14 stations, certains groupes se posent la question de leur choix. Je pense entre autres au regroupement des usagers du transport adapté de Montréal et aussi des activistes qui disent ne pas avoir été consultés là, pour la mise en accessibilité de ces 14. Bien, qu'est-ce que vous leur répondez?
Le critère de base pour nous, c'était qu'est-ce qu'on peut faire de plus... comment on peut maximiser les sommes disponibles? Donc, alors là, le critère, c'était quelles sont les stations les plus simples? Et les ingénieurs qui sont chez nous sont évidemment connaissent bien le réseau et savent où c'est le plus simple. Et donc, on est allé vraiment à ce niveau-là de critères. Et quand on regarde néanmoins la répartition, c'est quand même assez bien réparti dans le réseau. C'était pas ça l'intention, mais quand on les regarde, c'est ça que ça donne, tant mieux. Et ça nous permet de rendre accessible donc plus de stations sur la ligne bleue aussi. Je pense que c'est important. On fait Jean Talon, hein. Ça rentre pas dans les 14, là. C'est mais Jean Talon et Berry, ligne verte, là. Quand on dit 31, on compte les stations, mais ça fait quand même, ça va rendre quand même via Jean Talon et via Berry, ligne verte, ça va avoir un impact important sur la capacité de se déplacer.
Berry, la plus acharnante des stations.
Donc, on dit 31, mais dans le fond, on pourrait dire 33 parce qu'on fait deux lignes différentes, mais on compte les stations et non pas le nombre d'ascenseurs. Mais donc, ce que je disais, c'est que comme le critère de base était les plus simples, on a demandé aux ingénieurs qui connaissent bien le réseau de déterminer quels étaient les plus simples, mais c'est ce que ça a donné. Est-ce que dans l'exercice des études qui seront plus approfondies, on pourra dire, bien, peut-être qu'il y en a une, finalement, c'est plus compliqué, on va en faire une autre. Là. Mm-hmm. Ça se peut que la liste change.
Est-ce que vous demeurez ouvert aux suggestions, disons?
C'est dans la mesure où ce sont des stations plus simples, oui, mais la liste, à un moment donné, il faut commencer. Là. Alors, on a dit que les deux premières, c'était Jean Talon et Jean Drapeau. Celles-là, on est certain que ce sont les plus simples. Ça peut se faire assez rapidement. Les autres, il y aura des études pour déterminer vraiment quelle est la meilleure solution. Et ensuite, si on peut en faire davantage avec les sommes disponibles, on pourra toujours l'évaluer. Parce que là, on va rentrer dans un processus, il y aura des appels d'offres. Mm-hmm. Est-ce que les prix qu'on estime, est-ce que ça va coûter moins cher? Sinon, mm-hmm. c'est ça la beauté de ce programme-là. On a 213 millions. On dit qu'on va en faire 14, mais si au bout du compte, il reste 15 millions parce qu'on a bien géré et qu'on a fait les choses, on a eu des prix. Le meilleur prix sur les produits, mais le 15 millions, on ne va pas le renvoyer au gouvernement. On va le prendre et on va en faire d'autres.
Vous devrez être un bon négociateur pour tout ça. Parce qu'en fait, c'est sûr que le prix d'une station, c'est très variable. Hein. Il y avait eu une première évaluation qui avait été faite, d'ailleurs, qui avait peut-être mis en colère certains activistes, où on projetait la construction de 3 par année. Là, on arrive à en faire 2, mais on est... plus avisé, c'est ce que vous me dites.
Bien, ce que je vous dis, c'est qu'on commence à avoir quand même une certaine expérience. On sait combien ça peut coûter. Puis, on s'assure également là, avec les différents organismes, avec les comités d'audit, avec le vérificateur interne, qu'on paie vraiment ce que ça coûte. On veut être certain. C'est sûr que ça peut surprendre 15 millions pour un ascenseur. Mais c'est pas qu'il n'y a pas que ça. Là. Il y a l'encadrement, il y a aussi donc, les plans et devis.
Il y a un parcours aussi que les gens devront traverser qui sera sans obstacle.
Ben c'est ça, c'est pas simplement mettre un ascenseur. L'ascenseur comme tel, il ne coûte pas si cher que ça, mais il faut se rendre compte que dans certains cas, il faut percer les murs, il faut percer les planchers, il faut s'assurer qu'on ne fait pas de dommages structurels. Donc, des fois, il faut renforcer la structure. Là, je ne suis pas ingénieur, mais il y a plein de choses
à faire. Ça va bien.
Et parfois, quand on arrive à la surface, vous le voyez à Champ de Mars, par exemple, il a fallu construire une nouvelle sortie. Alors, tout ça, c'est des investissements. Et à Champ de Mars, il a fallu baisser le plancher pour éliminer des escaliers. Là où est la loge du changeur. Donc, ça a l'air de rien quand c'est fini. Hein. On arrive, puis c'est beau, puis ça s'intègre bien. Mais tout ce qu'il a fallu faire, là, je ne sais pas si vous êtes passé par Champ de Mars pendant qu'on faisait les travaux, mais c'était
monumental.
C'était assez impressionnant. La loge était pendue dans les airs, je vous rappelle.
Absolument.
On va baisser le plancher pour pouvoir éliminer certains escaliers. À Place d'Armes, ça a été plus simple. On a pu agrandir l'édicule puis faire une rampe pour éviter d'avoir à mettre un ascenseur de plus, donc pour la rendre accessible le plus rapidement possible. Et ça devrait être fini d'ici l'année prochaine.
J'aimerais peut-être poser quelques questions qui nous viennent d'usagers, d'usagères, mais juste avant qu'on poursuive, bon, vous le savez, il y a un recours collectif qui est intenté contre la STM, la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec dans le but de rendre accessibles les transports collectifs. Est-ce que vous pensez que cette annonce, d'une part, a été influencée par ce recours, mais va avoir une influence ou va peut-être convaincre les gens qui intentent une poursuite de laisser tomber?
Bien, je dois vous dire que la décision de le faire a été prise en fonction du fait qu'il y avait des sommes disponibles et que, pour moi, c'était la meilleure chose à faire avec les sommes disponibles. Alors, il n'y a rien d'autre qui est entré en considération de ce côté-là. Sinon, bien, s'il y a un processus qui est en cours, c'est le tribunal qui va décider quelle est la suite des choses, mais je peux vous dire que ce travail-là, on va le faire, puis quel que soit ce qui se passe autour, on va aller de l'avant, puis on va essayer d'en faire le plus possible avec les sommes disponibles, puis d'accélérer tout le reste aussi. Hein. On dit 2038, là, mais c'est simplement l'extrapolation d'un nombre de stations par année. Si on peut en faire plus rapidement, on ne va pas se gêner pour le faire.
Mais c'est sûr que ça, c'est une bonne question. C'est un peu de la futurologie.
Bien, c'est
là,
loin,
comme
2038.
Quelqu'un.
Moi, je regarde 2022.
Ouais.
On va y aller une étape à la fois.
OK.
Et si on peut accélérer le reste, on va le faire.
On a deux questions d'usagers. La première, en fait, c'est notre bon Luc Fortin qui a animé pendant longtemps cette émission. Et donc, il nous dit que dans les nouveaux bus, les annonces Bon, on entend là, les annonces des intersections, c'est nécessaire pour les personnes aveugles, mm-hmm. mais comme on invite les personnes aveugles à s'asseoir derrière le chauffeur, on entend moins ces annonces-là, ces okay. annonces audio. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque
bien,
chose?
D'abord, là, j'en prends connaissance. Je vais demander qu'on nous dise est-ce qu'il y a des modifications, est-ce qu'on pourrait faire des modifications au système? Là, je ne peux pas vous répondre. Là, je prends l'occasion, l'autobus. Je m'assois rarement en avant, donc je n'ai pas perçu ça personnellement. Là, mais si okay. monsieur le dit, c'est clair qu'il l'a constaté. Mais je vais demander qu'on nous dise si c'est quelque chose qui peut être modifié.
Merci d'en prendre acte. Et une autre question aussi par rapport aux mesures en cas de panne d'ascenseur. Donc, on demande, par exemple, la semaine passée, il y a eu des ascenseurs qui étaient en entretien à Berry pour quelques jours et sans préavis. Comment on pourrait informer de trajets alternatifs ou rendre disponibles des trajets alternatifs, d'après vous?
Bien, ça, il est clair que la communication, parfois, on peut peut-être améliorer la communication. Là, ce matin, notamment, c'est écrit sur le site qu'il y a un ascenseur à Berry qui ne fonctionne pas. J'en arrive, puis je suis allé voir, j'ai dit, il me semble que l'ascenseur a l'air de fonctionner, puis il fonctionne. Alors, des fois, peut-être des processus, c'est des choses peut-être parfois là, qui ne sont pas parfaites, mais on essaie d'être le plus efficace possible. Je vous dirais qu'avec tous les outils dont on va disposer bientôt là, sur le temps réel dans les autobus, ce serait peut-être une opportunité intéressante pour un développeur d'application de développer une application spécifique pour un type de clientèle. Donc, qui pourrait envoyer directement les informations précisément quand il y a des problèmes d'ascenseur. Puis ça, bien, qu'on développe des outils pour qu'on aussi, à la STM, on le sache en temps réel.
Vous travaillez là-dessus en ce moment, je pense.
On travaille sur une application qui va donner le temps de passage des autobus en temps réel, mais mm-hmm. on va viser la clientèle de façon générale.
Donc, toutes les personnes, même les personnes en situation de handicap.
Tout à fait,
là,
mais il y a peut-être des besoins plus particuliers qui pourraient peut-être intéresser des développeurs d'applications qui pourraient dire, ben moi, je vais vous en faire une, mais très, très, très spécifique pour une clientèle en particulier. Moi, je rêve du jour, mais je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est un rêve, là. Faire attention quand on rêve. Mais où, dans une version ultérieure d'e-bus, on pourrait même, quelqu'un à mobilité réduite qui veut prendre le bus pourrait indiquer, avant de partir de chez eux, au chauffeur qui va attendre le bus à tel arrêt. Mm-hmm. La technologie pourrait peut-être le permettre un jour. Il me semble que ça serait un plus. Et on s'assurait de cette manière-là que le chauffeur le sait, là, qu'il va avoir un client qui va prendre le bus à tel point.
Donc,
un jour peut-être.
M. Schnob, non seulement vous répondez, mais vous rêvez aussi encore pour l'avenir de la mise en accessibilité du service collectif. Merci d'avoir été avec nous, M. Schnob.
C'est un plaisir.